那有个港口的心坎塞小莫
Teme, mor, hon, yama. Ce sont les quatre animaux principaux que vous pouvez trouver en Mongolie. Les quatre animaux qui vivent tous les jours avec les Mongols. En l'occurrence, il y en a encore cinq. Il y a la vache ou les bœufs. Mais je ne me rappelle plus comment on dit en mongol. Alors tout de suite, nous retrouvons ce qu'on dit, ce qu'on raconte dans un chapitre qui a pour titre « La vie de tous les jours ». Et ça, c'est évident, les animaux font partie de la vie de tous les jours chez les nomades mongols qui sont bien évidemment, avant toute chose, éleveurs et qui vivent grâce à leurs animaux. Alors nous découvrons ce que Jacqueline Thévenet en écrit, en dit dans son livre « Les Mongols » de Gengis Khan et d'aujourd'hui. L'élevage constitue de longue date l'activité principale des habitants de la steppe mongole, à la fois comme moyen de subsistance et comme source de richesse. Mais l'élevage en Asie centrale est intimement lié au nomadisme, du grec nomas, pasteur, c'est-à-dire au déplacement régulier des troupeaux selon des critères bien définis, selon les points d'eau et les pâturages, et dans le cadre de conventions sociales très strictes entre éleveurs, entre autres à propos des terrains et des itinéraires. Nomadiser, ce n'est donc ni errer, ni vagabonder à travers la steppe au gré de sa fantaisie, c'est savoir mener son troupeau là où il faut, quand il le faut. Des museaux et des pattes pour désigner les cinq animaux, le chameau, les chevaux, les bœufs, les moutons et les chèvres qui composent les troupeaux des Mongols. Et c'est ces cinq animaux, les Mongols emploient volontiers des expressions imagées pour les décrire. Museau chaud ou froid, pattes courtes ou longues, amateurs d'herbes mouillées ou d'herbes sèches. Les museaux chauds comprennent les chevaux et les moutons. Ce sont les bêtes de prédilection les plus proches, celles qui procurent aux nomades le plus de réconfort. Les museaux froids, tout aussi utiles certes, sont en quelque sorte plus distants, moins amicaux. Les chameaux, les bœufs et chèvres en font partie. En termes de pattes, les cinq mêmes animaux se répartissent autrement. Les pattes courtes, ce sont les moutons, les chèvres et les bœufs qui pèsent relativement près des yourtes dans un rayon de 5 km environ. Les femmes et les enfants s'en occupent, soit pour les conduire et les garder au pâturage, soit pour les ramener le soir à l'enclos. Les pattes longues, au contraire, ce sont les chevaux et les chameaux, s'en vont au loin, sans gardien, et les hommes s'honorent d'aller les rechercher, quitte à y passer plusieurs jours d'affilée. Mais tous, hommes et femmes, enfants, montent à cheval pour leur fonction de berger. Les amateurs d'herbes mouillées, ce sont les chevaux et les bœufs, se rencontrent surtout dans les prairies et les steppes verdoyantes du nord et du centre du pays. Ceux qui se contentent d'herbes sèches, les moutons, les chèvres et les chameaux, se rencontrent dans les steppes arides du Gobi, mais aussi dans les steppes du centre et du nord du pays. Du point de vue de leur utilité respective pour la survie des nomades, les cinq animaux sont utiles pour leur lait, qui constitue avec la viande la base de l'alimentation. Le mouton fournit une chair succulente et la chèvre une laine appréciée pour les vêtements et les yourtes. Le cheval est la monture la plus courante. Le bœuf et le chameau sont indispensables pour le bas et le trait. La peau, le crin, la corne, les os se transforment en ustensiles de tous les jours. Les excréments séchés, que l'on appelle argal en mongol, servent de combustible. Mis à part le bois et le fer, on comprend que l'éleveur mongol puisse vivre longtemps du seul produit de ses troupeaux. En valeur marchande, d'ailleurs, la hiérarchie des cinq animaux, établie depuis des siècles, est respectée encore actuellement. Le roi des steppes est sans contredit le chameau, car il vit et sert son maître là où aucune autre bête domestique ne peut le faire, dans le désert. C'est pourquoi, dans l'estimation des fortunes, des dots ou sur les marchés aux bestiaux, un chameau vaut à lui seul 2 chevaux ou 2 vaches ou encore 7 moutons ou 10 chèvres. Alors, quelle expérience ai-je eue quant à moi avec ces 5 animaux? Eh bien, bien sûr, comme je vous le disais, vous ne pouvez pas manquer d'être d'accord avec Jacqueline Thévenet, puisque, bien évidemment, ces 5 animaux sont là en permanence. Alors, en l'occurrence, quand même, malgré tout, il faut bien dire que le chameau, qui est vraiment le vrai chameau, a 2 bosses, pas de confusion avec notre fausse appellation du dromadaire, donc c'est bien un chameau à 2 bosses. Eh bien, je n'en ai rencontré qu'une seule fois, mais une fois impressionnante, puisque je n'avais jamais vu de vrai chameau de ma vie, à part au cirque CNI. Et je suis tout à coup confrontée au détour d'une petite vallée avec un immense troupeau de chameaux. Et je dois dire que c'est une vision assez surprenante. Et au puits qui n'était pas loin, c'est donc jamais un hasard de rencontrer les animaux parce qu'ils sont proches des points d'eau, qui sont souvent des puits creusés dans le sol. Eh bien, au hasard du point d'eau qui était juste à côté, nous avons rencontré des nomades, bien sûr, qui étaient aussi établis là, à côté du point d'eau. Et il y avait là 1 ou 2 de ces chameaux. Il faut dire que c'est une bête impressionnante, gigantesque, avec des dents immenses et qui a des pattes, je ne vous dis pas. On dirait une raquette, chaque patte a la forme quasiment d'une raquette de tennis. Et on comprend bien que cet animal soit capable de résister dans le désert. Mais nous n'étions pas dans le désert. Donc, nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de tester cet animal. J'espère que cela m'arrivera bientôt. Mais en l'occurrence, je n'ai pas grande expérience du chameau. Alors, je vais plutôt vous parler des autres animaux que j'ai rencontrés. Je les passerai un peu en revue, confrontée à ce que va en dire Jacqueline Thévenet. Mais juste pour parler justement de tous ces animaux qui sont là toute la journée près de vous, que vous soyez dans un campement où ils sont réunis pour qu'on les traite, pour qu'on prenne leur laine, etc., ou que vous les rencontriez lorsque vous approchez des campements avec sur le dos de votre cheval, eh bien, chevaux, moutons, chèvres et vaches, eh bien, sont là tout le temps. Alors, c'est souvent grâce à eux que nous avons pris notre première leçon de mongol, puisque c'est ces mots les plus simples, il suffit de montrer et puis là, on vous dit le nom, n'est-ce pas? Donc, cheval, c'est bien sûr le premier mot que nous avons appris, mor. Le mouton et la chèvre, parce qu'il y en a tout le temps, tout le temps. Alors là aussi, vous devez très vite apprendre. Le mouton, c'est ron, la chèvre, yama. Et puis, les vaches, je vous dis, là, j'ai un petit blanc. Il faudrait vite que je consulte mon petit carnet. Est-ce que je vais trouver ça tout de suite? Non, je ne trouve pas tout de suite. Je chercherai tout à l'heure. Et donc, le chameau, alors j'ai beau n'en avoir pas rencontré beaucoup. Je sais comment on dit le chameau. C'est aimé, puisqu'il fait partie de ces 4. La vache est écartée du jeu des osselets. Donc, un osselet qui est une des vertèbres de la colonne vertébrale d'une chèvre. Et que les 4 faces de l'osselet ont un nom. Et le but, c'est de lancer les osselets. Et on a gagné seulement si ça tombe du côté attribué au cheval. Alors donc, on voit quand même que là, le cheval, dans le jeu de l'osselet, prime sur le chameau, le mouton et la chèvre. Donc, première occasion d'apprendre le mongol. Le jeu de l'osselet, entre autres avec ma très très belle petite vieille dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, c'est bien sûr les activités qu'on a eu la chance d'observer, mais auxquelles on a eu aussi un petit peu pu partager autour d'eux lorsqu'on arrivait dans les campements. On arrivait en général vers 8-9 heures le soir. Nous étions fatigués, on montait nos tentes, on savait que Erdene et Hoyou, ce couple magnifique de Mongols qui nous accompagnait, nous étaient en train de nous préparer une soupe à la mongole, améliorée de quelques légumes que les Mongols eux, ne consomment jamais, comme le chou, la carotte, parce qu'ils n'ont pas ça. Mais nous venions d'Oulan-Bator, la capitale, donc nous avions emmené ça avec nous. Eh bien, pendant que Erdene et Hoyu nous faisaient nous préparer à manger avec l'aide de Tuksu, eh bien, nous pouvions observer ce qui se passait. Alors, il y a la traite des chèvres. Un jour, je me suis fait comme ça attirer par la main par une femme qui m'emmène. Clac, elle me donne à la main un seau et à moi d'essayer de traire les chèvres. Je vous dis pas mon embarras et mon incapacité, surtout très très honteuse à côté de la petite fille haute comme trois pommes qui à côté de moi était nettement plus habile. Et puis, c'est aussi les activités très, très régulières, quasiment toutes les heures, de la traite des juments. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et puis, c'est aussi la séparation le matin avec toutes sortes de cris magnifiques pour encourager les bêtes. C'est la séparation des mères et des petits, que ce soit chèvres ou moutons, parce que les petits doivent être séparés de la mère la journée. Et pendant que les mères vont paître, eh bien, les petits restent là. Alors on se court après, on fait mais vraiment des chaînes, hommes et femmes sont réunis pour arriver à séparer ces petits qui veulent évidemment bien pas du tout quitter leur maman. Et puis, Jacqueline Thévenet le disait bien aussi, là encore, je n'ai pas découvert une Mongolie différente de la sienne, c'est de dire combien tous ces animaux sont à la base de la nourriture des nomades mongols. La viande, c'est la viande de mouton. Qu'en été, on ne mange pas vraiment. Pour nous, on a mis du mouton dans la soupe, mais en général, c'est le repas, la base de la nourriture réservée pour l'hiver. Donc, la viande de mouton. Une autre viande qui n'est pas celle de ces cinq bêtes dont je vous reparlerai une autre fois, c'est les marmottes, tarouac. On chasse la marmotte pour la manger, mais ça, c'est autre chose. Et puis, tout ce qui est produit laitier, le fromage, la crème, le yogourt, le lait de vache ou lait de jument, qui sont vraiment la nourriture absolument essentielle des Mongols nomades. Et surtout, en été, ils se nourrissent essentiellement de leurs produits laitiers. Nourriture que nous avons mangée, qui est excellente. Il y a des yogourts délicieux, mais alors, à force d'en manger, eh bien, on arrive même à distinguer les bons et les moins bons yogourts, suivant chez qui on est invité. On dit « Ah, mais alors là, ce yogourt est absolument fabuleux oh !» Ce tsai est très très bon et peut-être un peu trop de lait de jument, un peu trop de sel parce que c'est le mélange que l'on fait dans le thé. Mais enfin, des pures merveilles de ces choses à découvrir parce que pas du tout du genre cuisine raffinée, mais des choses étonnantes par rapport à notre quotidien. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Il reste une dernière chose que dit Jacqueline Thévenet et que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est la valeur des animaux. Hein. Elle vous dit, c'est le chameau qui est le plus important et il vaut deux chevaux. Veau ou deux vaches, sept moutons, dix chèvres. Eh bien, moi, je n'ai pas vécu le problème de la valeur du chameau, mais par contre, j'ai vécu le problème de la valeur d'un cheval. D'abord, premièrement, le cheval, il y en a des dizaines, des centaines, des troupeaux incroyables, et on a l'impression qu'ils n'ont pas plus de valeur l'un que l'autre. On en prend un, on en prend deux. Ils n'ont pas, il n'y a pas de, comment dire, d'accrochage particulier à un cheval ou à un autre. On ne sent pas un attachement particulier. Mais il nous est arrivé un événement particulier à un moment donné, c'est que un des chevaux, a visiblement tout à coup attrapé quelque chose, une maladie. Enfin, on ne sait pas très bien, on n'arrive pas à dire, on n'a pas su non plus comprendre ce qui se passait au moment où les choses se sont produites. Mais le cheval s'est mis à boiter, il refusait d'avancer, il avait un comportement vraiment étrange, il commençait à s'appuyer contre les autres chevaux comme pour venir se protéger vers eux. Dans un premier temps, on interprète ça comme un comportement paresseux. On a plutôt tendance à frapper sur l'animal, en tout cas les Mongols le font. Et puis, il n'avance toujours pas plus vite et il boite de plus en plus, sa croupe enfle. Et pour finir, nos deux jeunes guides nous faisons comprendre que l'animal est en train de mourir et qu'il faut aller l'amener dans un campement pour qu'il puisse mourir décemment. Alors, notre surprise est immense, bien évidemment. Bolto s'en va avec le cheval. Undré a l'air préoccupé parce que c'est son cheval et c'est donc pas lui qui va l'amener au campement. Vous remarquez l'échange de propriétaires. Et quand Bolto revient, eh bien oui, il nous dit le cheval est mort. Et il a l'air de prendre ça un petit peu comme un pince sans rire. Et on voit bien qu'au contraire, Undré est très préoccupé par la mort de ce cheval. mais on n'arrive pas beaucoup à échanger ce qui se passe. Et puis, bon, c'était le deuxième jour du retour, on doit encore faire une semaine de grande chevauchée, on n'y pense plus, on oublie le cheval. Et de retour au campement, et bien évidemment, le problème se repose, le père d'André vient et il demande des comptes sur ce cheval. On ne comprend pas très bien, mais on entend le mot « mor » qui revient dans toutes les conversations, on voit les grands gestes, visiblement. Le père de Dundré ne comprend pas pourquoi le cheval est mort et qu'est-ce qui s'est passé. Et il demande des comptes à Tchak, notre guide principal qui nous a mis en contact avec les nomades pour les chevaux. Et il y a vraiment un problème autour de la mort de ce cheval. Et pourtant, nous nous disions, mais il y en a tellement, ça ne devrait pas les frapper beaucoup. Ils n'y accordent pas tant d'intérêt que ça. Et puis non, à la mort d'un cheval, eh bien ça ne passe pas inaperçu, malgré les 300 autres qui sont dans le troupeau juste à côté. Le cheval mongol est petit, en moyenne 133 cm au garrot et 145 cm de long, avec sa crinière touffue, souvent rasée sur l'échine, mais laissée longue sur l'encolure, et sa queue très fournie qui, chez les talons, pend jusqu'au ras du sol. Il se rapproche davantage du double poney que du cheval. Marco Polo l'observait déjà, le cheval des steppes n'a besoin ni d'orge, ni de paille, ni d'avoine. Il broute n'importe où et n'importe quand, même la nuit, gardant en selle son cavalier qui n'aurait pas trouvé de gîte et le laissant dormir d'un profond sommeil. Vigoureux et résistant, on peut lui faire parcourir jusqu'à 100 km par jour, à condition de bien le laisser paître et se reposer avant et après l'effort. Les cavaliers de Gengis Khan montaient leurs bêtes un jour sur trois, ce qui les obligeait, dit-on, à emmener chacun pour des expéditions lointaines, au moins deux chevaux de main. Innombrables sont les marques de prévenance dont le Mongol entoure son cheval. Quand le sol inondé est gelé, il lui entoure les sabots de chaussons de feutre pour lui éviter de glisser. Ou, s'il ne s'agit que d'une mince pellicule de glace, il envoie plusieurs chevaux de front au galop pour dégager l'herbe à brouter. Sous la selle de bois, il glisse un double tapis de cuir ou de feutre pour ne pas blesser l'animal. Quand il l'emploie pour le trait, ce qui est très rare, il lui graisse le cou avant d'y fixer le harnais. Selles et rênes sont décorées de cabochons d'argent, c'est là un luxe qu'essaye de s'offrir chaque éleveur. Depuis l'instauration du régime socialiste en 1921, c'est même le seul signe extérieur de richesse autorisé. Le cavalier monte le plus souvent debout sur des étriers chaussés courts et déjetés, c'est-à-dire une jambe tendue, l'autre légèrement fléchie. Il n'emploie pas d'éperon et sa cravache, le dachour, sert davantage à battre l'air que la croupe de l'animal. Aux bandes d'arçons pendent des lanières auxquelles les chasseurs attachaient jadis le gibier. Pour capturer les jeunes bêtes, le Mongol se sert de la perche lasso, qu'on appelle ourga, longue branche de saule terminée par une boucle de cuir non coulissante. Une marque sur la cuisse gauche, la tamga, montre l'appartenance à tel ou tel maître. « Traditionnellement, la traite des juments requiert la collaboration de l'éleveur et de son épouse. L'homme attache les longes à une corde tendue entre deux piquets plantés dans le sol et le cas échéant trave les bêtes trop fugueuses. Puis il amène le poulain à sa mère et lui fait téter les premières gorgées de façon à amorcer la montée du lait. Enfin, tandis qu'il le maintient contre la jument, la trayeuse fait son office. Dès qu'un enfant peut tenir debout, il apprend à monter à cheval, agrippé au dîle de son père ou de sa mère. Cette habitude, acquise si tôt, lui déforme souvent les jambes et s'observe à sa démarche la vie durant. La Mongolie compte encore de nos jours plus de chevaux que d'habitants, 2 millions, et si pour se déplacer, bien des jeunes leur préfèrent la moto, l'utilité et surtout le prestige du cheval sont loin d'avoir disparu, nous reparlerons de lui à propos des aliments blancs, des fêtes, de la poésie et de la musique. Mon petit cheval à moi, eh bien, il était tout noir. Il avait, lui, une très longue crinière. C'est effectivement les étalons seulement normalement, comme le dit Jacqueline Thévenet dans le texte que je viens de vous lire, tiré de son guide qui a pour titre « Les Mongols de Gengis Khan et d'aujourd'hui », publié aux éditions Armand Collin. Eh bien, Jacqueline Thévenet faisait remarquer que seuls normalement les étalons ont une crinière maintenue longue ou bien... Il y a aussi certaines juments qui peuvent, lorsqu'elles n'ont pas de petits, qui peuvent avoir la grande crinière. Alors, c'était le cas de mon petit cheval à moi, tout noir. Ce petit cheval qui est vraiment petit, c'est le cas de le dire. On se sent tout proche de lui, mais il est très fougueux, mais il vous obéit au doigt et à l'œil. Et il s'efforce de son mieux d'éviter les trous formés par les marmottes ou toutes sortes de petits rongeurs qui s'infiltre dans la steppe à tel point que un des premiers mots que nous avons appris aussi en dehors du nom des animaux, eh bien c'était « Ochtenour » et ça veut dire « attention les trous » parce que la steppe est bourrée de trous faits par ces bestioles. Les chevaux parfois les repèrent, d'autres fois c'est au cavalier à les repérer, sinon tout le monde s'en couble et ça peut finir par un vol plané du cheval et qui entraîne bien évidemment son cavalier dans la chute. En ce qui me concerne, par chance pour moi, ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai vu certaines chutes assez spectaculaires, le pied coincé dans un étrier, ensuite quasi traîné par son cheval, il y a des fois des trous qu'on n'aime pas beaucoup. Eh bien, les chevaux, ben moi j'ai vu aussi des visions absolument insensées d'immenses troupeaux de chevaux. Je n'avais jamais vu des troupeaux de chevaux de cette immensité-là. Je crois qu'on peut dire d'entre 300, 400 chevaux d'un seul coup. Et c'est tellement, mais tellement impressionnant de voir tout à coup, ou d'entendre d'abord dans un premier temps, le sol qui vibre sous le galop d'un immense troupeau de hardes de chevaux, je crois qu'on dit, avec, on le repère très très vite, le ou les étalons, il y en a parfois un ou deux, et qui se précipitent par exemple dans une rivière, si vous êtes à côté, et c'est un spectacle magnifique de voir ces chevaux se précipiter dans l'eau et se rouler dans l'eau comme s'ils étaient des gamins. Il se roule, il se gicle, il continue encore à courir, se tourne autour. Tout de suite, un cercle de juments se fait autour des différents étalons. Et ensuite, ils ressortent paisiblement au bout d'un moment, lorsqu'ils se sont bien traînés dans l'eau, se sont abreuvés, et ils repartent aussitôt au galop, un peu plus loin dans la steppe. Ça, c'est vraiment une image incroyable, qui vous laisse muet devant tant de beauté, de poussière mêlée au coucher du soleil, parce que c'est souvent à cette heure-là que les chevaux viennent s'abreuver à la rivière. Bolto et Undrée, eux, sur leurs chevaux, étaient vraiment des rois. Je crois que l'on peut dire que n'importe quel homme ou femme devient reine ou roi lorsqu'il est sur son cheval. Lorsqu'il en descend, effectivement, on découvre, comme le dit Jacqueline Thévenet, souvent des choses assez étranges, comme par exemple les jambes arquées de tous ces gens-là. C'est évident que montant à cheval depuis si jeune, et c'est vraiment très très jeune, on en a vu de l'ordre des gamins de 3-4 ans monter sur leur cheval et partir tout seul dans la steppe, comme ce petit gamin sauvage dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne se laissait pas approcher, eh bien, son grand-père le met sur le cheval et on le voit s'enfoncer comme ça dans la steppe. On se dit, mais où il va aller comme ça, ce petit bout de chou sur son cheval? Et il revient. Au bout d'un moment, ce n'est pas très bien ce qu'il est allé faire. Là, vous entendez un chant mongol interprété par une femme et qui vous parle justement de son cheval Bemoujté, mon mignon petit cheval. Bemoujté ne se fatiguait jamais dans la steppe. Pourquoi nous a-t-il quittés? Son nom était très connu dans les registres.